France Inter.
Bonsoir à tous. 40 degrés à l'ombre, la moitié de la France. En surchauffe, la vague caniculaire couvre d'orange 42 départements sur la carte des vigilances météo. Mais une région nargue le pays depuis l'ouest, la Bretagne, rare îlot restant de fraîcheur. Entre 2 et 4 milliards d'euros d'économies par an à réaliser sur l'assurance chômage. Voilà ce que prévoit de faire passer le gouvernement dans les négociations pour une nouvelle réforme. Tollé général chez les partenaires sociaux. Toujours trop de féminicides en France, malgré les dispositifs de soutien qui existe mais qui reste méconnu. Zoom dans ce journal sur une mesure pour aider les femmes à partir de chez elles quand elles subissent des violences. C'est comme si des adultes prenaient une décision pour un enfant. La réaction dépitée des Ukrainiens, vous les entendrez, alors qu'un sommet Trump-Poutine, mais sans Zelensky, s'annonce la semaine prochaine. Quatre lettres des plus évocatrices. AC/DC, le légendaire groupe de hard rock, est en concert à Paris ce soir. Et l'une de ses prouesses, c'est peut-être aussi sa moyenne d'âge, 64 ans et plus de 5 décennies passées à électriser les foules.
France Inter.
La sueur à grosses gouttes, la tête qui tourne et le souffle court. La France est écrasée par des chaleurs caniculaires. Le nombre de départements placés en vigilance orange ne cesse d'augmenter. Il n'était que 11 hier encore. Ils seront 42 demain dans une grande moitié sud du pays. On transpire à Toulouse, à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Limoges, où des habitants d'une résidence HLM à l'isolation pourtant fraîchement rénovée grognent parce qu'ils enregistrent jusqu'à 34 degrés chez eux. Reportage. Ici Limousin, Mickaël Chailloux.
En bas de la résidence, le soleil tape fort et à l'intérieur, Georges constate, il fait chaud.
34 degrés, voire un peu plus.
Pour lui, voilà la raison.
On a des volets noirs au niveau de la salle à manger et ces volets noirs absorbent la chaleur et la restituent dans l'appartement.
Dans la cuisine, pas de volets également.
L'architecte n'a pas voulu que des volets soient mis dans les cuisines pour l'aspect architectural et esthétique de l'immeuble.
Avec des conséquences.
J'ai quelqu'un par exemple, qui est en face de moi, là, qui m'a expliqué ce matin que le soleil a grillé son réfrigérateur.
Et interdit de mettre des brise-vues sur les balcons.
Limoges Habitat ne veut pas que les locataires mettent des films autour des balcons.
Georges, adhérent de la CNL 87, Fédération du Logement, veut donc alerter. Quant au bailleur, Limoges Habitat, il ne conteste pas les faits, mais impossible de tout changer. Laurent Gorce, directeur adjoint de la direction proximité.
Ce qu'on peut envisager, c'est de communiquer à nos locataires sur les bons gestes, comme on peut le faire avec les éco-gestes sur les économies d'énergie. Maintenant, sur une intervention technique, non, on ne fera pas, parce que je vous dis encore une fois, on est passé d'une étiquette E à A, validée par un bureau d'études, et que là, pour le coup, on a nettement amélioré l'enveloppe thermique. Hein.
Limoges Habitat qui rappelle aux locataires que des gardiens sont à leur disposition avec des numéros d'astreinte si besoin.
Et alors que Météo France enregistre des pics dépassant les 40 degrés par endroit sur le territoire, une région résiste, comme chaque été, à l'envahisseur chaleur. Pas besoin de climatisation ni d'éventail dans les Côtes d'Armor, où les touristes profitent. Sans coup de chaud, Joanne Moison.
Vous sentez la petite brise rafraîchissante ?
C'est tip-top, comme il faut.
C'est vrai que c'est agréable, on ne va pas contredire ce touriste suisse. Nous sommes sur la cale de Jospinet, à Planguenoil, dans le fond de la baie de Saint-Brieuc. Les barges des mitiliculteurs rentrent de la récolte des moules sous le regard de Chantal, qui arrive de la région lyonnaise.
On est parti de chez nous avec 40 degrés. On est content d'arriver ici à 25 degrés. C'est parfait parce que nous, on a une chaleur très étouffante. On est un peu dans une cuvette au milieu des montagnes. Là, avec l'air marin, c'est très bien.
Isabelle et son mari, eux, découvrent la baie de Saint-Brieuc à vélo.
On est vraiment bien. On peut vivre l'après-midi, en fait, faire plein de choses.
On est très bien ici.
Ouais. Jean-François habite ici.
On est très très bien.
On se trouve privilégié par rapport aux autres régions de France où il se passe plein de choses, les inondations, les incendies, la chaleur. Et nous, on est quand même pas mal. Mais il faut continuer à dire qu'il pleut, qu'il fait froid, que oui, parce que là, on a déjà beaucoup de monde.
En réalité, pas de pluie de prévu ici. Il devrait faire même chaud en début de semaine prochaine, même sur la côte, avec un mercure avoisinant les 30 degrés.
Et de quoi faire envier ou rager au choix le reste de la France qui bout sous près de 40 degrés. Reportage Joanne Moison, ici Armorique pour Inter, et le point météo complet à la fin de ce journal. L'incendie dans l'Aude ne sera pas maîtrisé avant demain et encore moins éteint. Les pompiers sont encore un peu plus d'un millier sur le terrain à contenir le feu et à surveiller qu'il qu'ils ne repartent pas. Et ce soir, c'est aussi le Vaucluse qui est surveillé. Risque de feu de forêt maximal pour le département demain. Serrer la ceinture de l'assurance chômage pour économiser plus de 2 milliards d'euros par an. C'est en résumé ce que dit la lettre de cadrage adressée par le gouvernement aux partenaires sociaux aujourd'hui. Les grandes lignes d'une nouvelle réforme prévue pour alléger le budget. Objectif, atteindre 2 milliards à 2 milliards et demi d'euros d'économies chaque année jusqu'à 2029. Puis 4 milliards à partir de 2030. Des sommes considérables qui interrogent sur la façon dont le gouvernement va s'y prendre. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Difficile en tout cas d'imaginer que ça se fera sans douleur.
Oui, car les montants d'économies attendus sont effectivement impressionnants. Alors premier levier, le gouvernement souhaite que soient encore revues les conditions d'accès à l'assurance chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour y avoir droit. Autre piste, celle du gel du niveau des indemnités. Plus d'incitations aussi au retour à l'emploi pour les salariés qui avaient un salaire important avant d'être au chômage. Et puis le gouvernement confirme sa demande de trouver des mécanismes pour faire baisser le coût pour l'assurance chômage des ruptures conventionnelles. Il faut rendre ce dispositif coûteux moins attractif, nous dit-on ce soir dans l'entourage de la ministre du Travail, en allongeant peut-être le délai entre le moment où un salarié qui vient de signer une rupture conventionnelle quitte l'entreprise et celui où il commence à toucher des indemnités chômage. Voilà donc le cadre fixé dans cette lettre que nous nous sommes procurés. À noter que le gouvernement dans ce document semble exclure l'idée de toucher à la durée maximale d'indemnisation chômage.
Et forcément clair, les partenaires sociaux sont en colère.
Ouais, c'est une déclaration de guerre, réagit aujourd'hui la CGT. 4 milliards, c'est la réforme, je cite, la plus violente jamais imaginée ces dernières décennies. La CFDT, elle, conteste la légitimité même de rouvrir le dossier assurance chômage alors qu'une nouvelle convention agréée avec déjà des efforts importants doit s'appliquer jusqu'en 2028. Elle parle de déni démocratique. L'exécutif rappelle, lui, au-delà de l'enjeu budgétaire, la nécessité de faire baisser le chômage. Parle d'un système qui reste l'un des plus généreux en Europe. Affirmation que contestent ce soir les organisations syndicales.
Merci Claire Chaudière, service économie de France Inter. Un homme d'une trentaine d'années a tué son ex-conjointe la nuit dernière en Bretagne. Il a pris la fuite avant d'être rattrapé, puis abattu par les gendarmes. Ce nouveau féminicide a eu lieu en Ille-et-Vilaine à Saint-Jouan des Guérets et porte à 10 le nombre de femmes tuées depuis début juillet en France, un chiffre alarmant et qui incite à souligner un peu plus l'importance des dispositifs existants pour éviter ces drames, comme l'aide universelle d'urgence, un soutien financier pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter leur domicile, Marion Aquilina.
Environ 5 fois par mois, l'association Libre Terre des Femmes à Paris constitue des dossiers de demande d'aide universelle d'urgence. Et ces derniers jours, c'était pour Jeanne.
Je ne savais pas du tout que j'avais droit à cette aide. Et c'est à la suite d'une mesure d'éloignement qu'il y a eu à l'encontre du père de mes enfants.
Le montant dépend des revenus et du nombre d'enfants à charge. En moyenne, les caisses d'allocation familiale versent 877 euros. Une somme débloquée en moins d'une semaine. Et c'est vital, selon Jeanne.
Quand on est mère isolée, on sait pas trop où se diriger parfois. Le 115, c'est saturé. Donc moi, personnellement, là, c'est une aide qui va vraiment me permettre de pouvoir assurer la rentrée de mes enfants.
La plupart des femmes qui sollicitent l'association ont subi des violences conjugales pendant plusieurs années, a constaté la directrice Yasmina El-Fakir.
Pour certaines, il y a l'isolement qui est installé stratégiquement par l'auteur des violences. Elle coupe tout lien avec l'extérieur. Le problème avec l'administratif, c'est souvent aussi quand l'auteur des violences a la main sur les comptes bancaires, CAF, et du coup, elles n'ont aucun accès à leur argent.
Souvent, la demande d'aide s'accompagne de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la victime pour qu'elle puisse toucher l'argent de la CAF.
Et cette aide universelle d'urgence a déjà permis, depuis qu'elle existe, d'aider plus de 36 000 femmes victimes de violences conjugales.
France Inter, Flore Catala.
Un sommet Trump-Poutine sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. Ça se précise pour la semaine prochaine et dans le même temps, la crainte d'une paix ni juste ni durable se confirme pour Kiev. Le président américain a déclaré vouloir discuter d'échanges de territoires russes et ukrainiens lors de cette rencontre le 15 août prochain en Alaska, suscitant une vive opposition de la part de Volodymyr Zelensky. Toute décision prise sans l'Ukraine serait une décision contre la paix, a déclaré le dirigeant du pays. Des réserves partagées par la diaspora ukrainienne. Nicolas Joly a échangé avec des Ukrainiens installés en France.
Le message de Volodymyr Zelensky résonne chez beaucoup de ses compatriotes. Impossible de négocier la paix en Ukraine sans l'Ukraine.
Il semble que les adultes qui sont dans une impasse tentent de prendre une décision pour un enfant malheureux.
Olga est installée en France depuis le début de l'invasion russe. Elle ne croit pas aux discussions avec Vladimir Poutine.
Les leviers économiques ne fonctionnent pas. La Russie et son peuple se sont adaptés à toutes les sanctions et le pétrole continue de se vendre avec succès.
Pas de paix avec Poutine, c'est aussi ce que pense Stepan, franco-ukrainien.
Poutine cherche tout simplement à gagner du temps. Son but est de conquérir entièrement l'Ukraine, car pour lui, l'Ukraine n'existe pas.
Beaucoup s'inquiètent des échanges de territoires évoqués par Donald Trump. Volodymyr Kogoutiak est vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Il représente la diaspora ukrainienne en Europe de l'Ouest.
On a l'impression que si on cède le Donbass et la Crimée, la guerre s'arrêtera. Et c'est une énorme illusion. La guerre russe en Ukraine existe simplement pour faire la guerre russe en Ukraine. C'est-à-dire le but final de la guerre reste la guerre en elle-même et non un territoire précis.
Pour lui, discuter, c'est déjà une première étape, mais il n'imagine pas une issue favorable sans appliquer des sanctions directes contre la Russie.
Et dans ce contexte, Londres convoque ce soir une réunion pour évoquer les discussions de paix. Autour de la table, dirigeants européens, américains et ukrainiens. Une manière de ramener Kiev au centre des échanges. Objectif de la réunion de ce soir, garantir que les conditions sont là pour débattre d'une paix malgré tout équilibrée à Londres, Laura Kalmus.
C'est dans un décor élégant de Chevening, résidence officielle de campagne du ministre britannique des Affaires étrangères dans le Kent, que David Lammy reçoit le vice-président américain J.D. Vance. Autour de la table ou en visioconférence, des conseillers à la sécurité nationale venus d'Ukraine et d'Europe. Selon le Guardian, cette réunion a été organisée à la demande des États-Unis. Elle vise à préparer les prochaines étapes de l'initiative américaine pour mettre fin à la guerre et à définir comment les alliés peuvent soutenir cet effort. Pour Downing Street, c'est une occasion cruciale pour discuter des progrès à accomplir vers une paix juste et durable. Ce matin, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky se sont entretenus par téléphone. Ils ont salué la volonté du président Trump de mettre fin à cette guerre barbare, tout en affirmant qu'il fallait maintenir la pression sur Poutine. Le Premier ministre britannique a également affirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine et à son peuple.
L'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, signé hier sous l'égide des États-Unis, salué par la communauté internationale. Avec une réserve toutefois de l'Iran qui s'inquiète de l'ingérence américaine sur cet accord. Les États-Unis prévoyant de créer un corridor stratégique dans la région. Corridor que l'Iran n'autorisera pas, a déclaré le guide suprême. 19h12 sur Inter, moins d'une semaine avant la reprise de la Ligue 1 de football. Entrée en scène des clubs de Ligue 2 ce soir avec le retour dans leur rang de l'AS Saint-Étienne, les Verts, à nouveau en deuxième division après une remontée de courte durée en Ligue 1 l'année dernière. Les Stéphanois ouvrent leur saison pour un match à Laval. Ils font figure de grands favoris en Ligue 2. Mais attention, Julien Frénois, à l'excès de confiance.
Les supporters sont impatients et veulent des résultats.
C'est vrai qu'on a une grosse attente. On espère remonter l'année prochaine.
On espère quand même pas mal de victoires. C'est ce qui nous fait remonter en Ligue 1. Franchement, les deux premières places, ça semble largement possible.
Tant que ça mouille le maillot, moi je suis content.
Mais attention au surplus de confiance. Il faudra assumer d'être le favori selon l'entraîneur Eric Horneland.
Notre objectif est clair, il faut nous relever. Mais ça ne sera pas facile car on ne va pas gagner juste parce qu'on s'appelle l'AS Saint-Etienne.
Le coach peut compter sur son gardien Gauthier Larsonneur pour faire passer le message. Lui qui veut laver l'affront de cette relégation encore bien présente dans les esprits.
Le terme honte est un peu fort, mais c'est vrai que ce qui s'est passé la saison passée, j'en suis pas fier. Heureusement, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Et je pense que c'est ce qui doit animer l'ensemble de cet effectif, même s'il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont découvrir les Saint-Etienne, la Ligue 2.
Les Verts au révélateur de Laval ce soir, et ce sera sans plusieurs cadres.
Un coup d'envoi à 20h. Et puis direction le Stade de France, où le foot ce soir cède la place au Hard Rock. L'un des groupes les plus célèbres de la planète, AC/DC, fait son retour à Paris. Un an après son dernier concert dans la capitale, un groupe qui force le respect. Au vu de l'âge avancé de ses membres, son leader et chanteur Brian Johnson a 77 ans et encore pourtant beaucoup d'énergie à donner au public, public dans lequel vous vous trouvez. Bonsoir Nicolas Piquet.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et quelques heures avant le début du concert, l'ambiance est déjà survoltée autour de vous.
Avec du hard rock diffusé par des enceintes toute l'après-midi à côté de tireuses à bière tout autour du stade. Elles sont d'ailleurs bien utilisées. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. 80 000 personnes sont attendues ce soir. Les fans portent des t-shirts AC/DC, des serre-têtes avec des cornes de diable. Et les premiers spectateurs sont arrivés très tôt. Sébastien est là depuis 11 h ce matin.
Pour être les premiers, pour être devant la barrière. C'est des concerts qui se vivent à fond. Il faut être au plus près de la scène et au plus près du groupe.
Pour profiter pleinement et de ce concert en particulier.
Je pense que ce sera vraiment le dernier, parce que vu l'âge qu'ils ont, à mon avis, ils ne vont pas en faire encore 10. Donc c'était celui à ne pas louper.
C'est la crainte de beaucoup de fans ici, vu l'âge de Brian Johnson, bientôt 78 ans, vous l'avez dit. Même Angus Young, le guitariste, l'un des deux frères qui a fondé AC/DC, a passé 70 ans. Donc il était temps de voir son groupe préféré pour Martin, 20 ans. Il est venu de Toulouse en famille.
AC/DC, c'est quand même la base du hard rock. Et avec la famille, surtout avec mon oncle, je me souviens du baptême où on avait Thunderstruck à fond dans la voiture. Ça nous représente à tous la musique que produit AC/DC.
Franck, lui, voit le groupe pour la 9e fois.
Alors, le premier concert c'était en 82 et depuis ça s'est enchaîné 86, 91 etc. jusqu'à aujourd'hui quoi. Même l'année dernière j'y étais, 2024 c'est mes idoles quoi.
Et il reviendra à nouveau mercredi pour la 2e date parisienne de ce qui risque donc d'être la toute dernière tournée d'AC/DC après une carrière de plus de 50 ans.
Nicolas Piquet en direct du Stade de France avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques. Tout de suite la météo avec Virginie Ilson-Lévy.
Bonsoir à tous.
La chaleur reste marquée ce soir dans le sud.
Oui, avec plus de 30 degrés dans certaines grandes villes comme à Toulouse, Lyon ou Nîmes. La nuit prochaine s'annonce tropicale sur une bonne partie de la moitié sud, avec plus de 20 degrés au thermomètre. Au nord, la soirée est plus agréable, autour de 20 à 23 degrés. Ce dimanche, alors côté ciel, un léger voile d'altitude concernera le sud-est. Quelques averses orageuses vont se déclencher aussi sur les sommets des Pyrénées et des Alpes du Sud. Et le retour du Mistral en vallée du Rhône, mais sans dépasser les 50 km/h en rafale, mais avec un risque de départ de feu élevé.
Et l'épisode caniculaire se poursuit.
Les températures resteront donc très élevées ce dimanche. Le matin, 13 à 20 degrés en général du nord au sud. Localement, 21-24 degrés dans le couloir rhodanien, en PACA et donc en région Occitanie. L'épisode donc caniculaire s'étend vers les littoraux aquitains et méditerranéens. Toute la moitié sud est concernée par de très fortes chaleurs. Jusqu'à 36-38 degrés, localement 40 sur les plaines du sud-ouest et sur les régions méditerranéennes. Les maximales atteindront 26 à 30 degrés dans les terres en Bretagne, Normandie et au nord de la Seine jusqu'au Grand Est. Ailleurs, il fera entre 31 et 35 degrés.
Merci Virginie Ilson-Lévy.